Merci Virginie, merci à l'invitation de la bouffe. Je suis très content de faire un train de Virama. Je suis très content d'intervenir après cet hommage à Mathieu Giroux qui me fait penser que dans les temps qui courent, toute radicalité est une posture risquée. Et donc je voudrais défendre aussi une certaine radicalité de la pensée. Sachant que, sous le terme de radicalisation, nos gouvernants sont en train de mettre beaucoup de choses, peut-être aussi la géographie radicale, peut-être aussi la pensée radicale, et que cela nous ouvre à un moment critique, à un moment problématique pour certainement toute pensée contestataire, toute pensée radicale, j'imagine que Mathieu Giroux aurait été aussi dans cette réflexion et dans cette critique des appels à lutter contre la radicalisation, toute radicalité confondue. Alors, ce que je vais vous présenter, ce sont l'ensemble de réflexions qui sont déjà un peu synthétiques, mais qui voudraient ouvrir un peu la réflexion d'une manière très pluri et interdisciplinaire sur la question de la transformation urbaine au bout du compte, puisque je crois qu'à peu près tout le monde s'entend sur le fait que depuis un certain nombre d'années nous sommes passés à une autre forme d'urbanisation et d'urbanité et que tout ce qui a pu composer le tissu, la production des espaces urbains dans sa forme de la ville classique, de la ville marchande, de la ville industrielle, est maintenant derrière nous et que nous sommes de plus en plus confrontés à la compréhension d'espaces qu'on dit déterritorialisés, de conurbations sans début et sans fin. Et il m'a semblé que peut-être paradoxalement, ou justement, l'anthropologie qui a toujours un peu de mal à saisir la totalité de la ville, l'entièreté de la ville par son approche en général micro, de ses enquêtes micro-locales, a cette fois peut-être quelque chose à dire sur cette espèce d'expansion continue de l'univers urbain. Alors, dans ce contexte-là, je fais l'hypothèse que ce qui est le facteur d'urbanisation et d'urbanité aujourd'hui majeur, c'est le rapport entre la ville et la mobilité. Le rapport et la mobilité étant devenu le facteur dominant. Mobilité qui se déploie à toutes les échelles locales, intra-urbaines, interurbaines, régionales, nationales, mondial aussi, bien évidemment. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent beaucoup mieux que moi tous les aspects démographiques et géographiques de ces mobilités à l'échelle internationale. Comme vous savez, je me suis depuis de nombreuses années beaucoup intéressé à la question des déplacements. Alors, peut-être pas tant dans la définition onusienne des populations déplacées, mais plutôt dans une définition anthropologique du déplacement, de la place, du déplacement et de l'emplacement, c'est-à-dire le rapport au lieu, en gros, du point de vue de l'anthropologie. Mais il est bien évident que, je prends en compte les grands chiffres qui existent, et je ne vous en ferai pas la liste à nouveau, parce que je ne suis pas producteur de ces chiffres-là qui circulent dans toutes les organisations. Mais on sait que l'immigration internationale touche aujourd'hui à peu près 230 millions de personnes sur la planète, qu'on peut évaluer à 60-70 millions le nombre de personnes qui sont en situation de déplacement forcé ou déplacement contraint, et on peut bien évidemment contester cette catégorie-là d'emblée en se demandant qu'est-ce qui est contraint, qu'est-ce qui est réellement choisi. Surtout, on peut prendre en considération le fait que la plupart des déplacements contraints, en l'occurrence, à 85-90% se font entre les régions du Sud, elles-mêmes, généralement dans les pays de voisinage, et que dans les projections parfois les plus dramatisantes, mais qui sont quand même à prendre en compte, je pense au travail qui avait été entamé par Paul Virilio en 2008 autour d'une exposition sur la Terre globale et son devenir, et une exposition qui est reprise maintenant 7 ans plus tard par la Fondation Cartier, qui est représentée et réargumentée avec beaucoup de cartographies dynamiques, etc. On évoque 1 milliard de personnes en déplacement dans les 40 années à venir. Bon, donc on peut imaginer, et on en a une image parfois très dramatisée dans les médias, avec ce qui se passe en Europe depuis, en réalité depuis de nombreuses années, mais là de manière très, très, très visible depuis ces derniers mois, qu'un ample repeuplement de la planète est amorcé, et même si ce repeuplement de la planète se joue quand même pour une très grande part à l'intérieur des grandes zones, dans les échanges, des mobilités sud-sud ou nord-nord pour l'essentiel. Toutes les échelles doivent être croisées désormais en permanence pour repenser la configuration des espaces locaux, les formes et les symboles de l'attachement au lieu, le sens des déplacements, le bonheur ou l'enfer des mobilités. Nous aimons, nous, pouvoir être mobiles, aller partout où nous avons envie, par des moyens de transport rapides, le plus rapide possible, et d'autres vivent aussi cette mobilité tout aussi désirée ou tout aussi indispensable, parfois dans des conditions infernales. Et il m'a semblé que dans ce moment actuel, en faisant aussi le pari, si vous voulez, l'hypothèse forte théorique que ce sont ces mouvements de population qui constituent une part essentielle de la mondialisation, c'est d'ailleurs la mondialisation humaine, en plus de ce qui nous est déjà tellement évident que nous n'y pensons plus, la mondialisation des communications, la mondialisation des marchandises, la mondialisation des capitaux et la déterritorialisation des capitaux, bien que cette partie de la mondialisation qui est la mondialisation humaine est la partie la plus problématique, la plus critique, dans ce mouvement-là, du point de vue de l'anthropologue, du point de vue peut-être des sciences sociales plus généralement, les possibilités ou les désirs de retour chez soi sont de moins en moins assurés. Les lieux anthropologiques, pour reprendre un terme développé il y a quelques années par Marc Auger, les lieux anthropologiques perdent leur caractère d'évidence ancestrale, héritée, et du coup nous oblige à penser à la fois rétrospectivement et prospectivement les mécanismes de production de la localité. Alors, vous savez que... Pour ce qui me concerne, une de mes inspirations fortes pour ceux qui veulent faire de l'anthropologie monde, de l'anthropologie dans le monde, c'est évidemment les réflexions d'Arjuna Padurai, qui avait évoqué, il y a déjà une bonne vingtaine d'années, qui avait évoqué la question de la perte d'évidence de la production de la localité, et donc à chaque fois, il existe des techniques de production de la localité, jusqu'à aujourd'hui, finalement, avoir des espèces de fictions de production de localité, quand on se réinvente des lieux d'origine ici ou là, quand on se réinvente la nostalgie des lieux perdus, alors qu'on n'a aucune trace de lieux perdus dans les généalogies, dans les filiations, on réinvente des mémoires de lieux, par exemple, des ancrages pour réimaginer certains ancrages parfois fictionnels. Donc c'est ce qui avait fait dire un petit peu Arjuna Padurai, qu'aujourd'hui, finalement, ces productions parfois fictionnelles de localité, hein, au sens non pas du lieu lui-même, mais de l'identification au lieu, hein, de l'identification locale, ces techniques fictionnelles, ces manières fictionnelles aujourd'hui de produire de la localité, finalement, nous permettent de regarder rétrospectivement que tous les rituels sociaux passés, des sociétés d'autrefois, des sociétés déjà existantes, tous les rituels de communauté, les rituels sociaux, ont toujours été aussi des rituels de localité, de délimitation, de périmètre, d'inscription locale. Donc aujourd'hui, la localité comme concept se révèle d'autant moins évidente comme dispositif culturel qu'elle peut être si facilement détruite dans les faits comme pratique, Autrement dit, la perte des lieux impose aux personnes en déplacement la problématique de l'identification locale, qui peut être une ou multiple, d'autant plus si ces personnes se stabilisent dans les villes, se stabilisent dans la mobilité, si on peut dire, auquel cas cette problématique devient permanente et en quelque sorte existentielle. Bien des agglomérations urbaines actuelles et à venir se forment donc dans un contexte social où le lieu anthropologique et plus radicalement encore la racine sont des fictions ou des histoires du passé collées aux rhétoriques identitaires de l'autochtonie ou aux récits de soi nostalgiques. On peut aller plus loin, si on veut, on peut aller plus loin que l'idée de Marcel Détienne et la critique, ce qu'il avait élaboré, le concept de racinement. Avant de parler de déracinement et enracinement, il fallait, explique Marcel Détienne, s'interroger sur l'idée même du racinement, et pour le dire comme Zvetan Todorov dans un autre contexte, les hommes, à la différence des plantes, n'ont pas de racines, ils ont des jambes et c'est pour s'en servir. Et donc, si vous voulez, l'idée même de racine, d'enracinement et de déracinement est peut-être à sortir de la pensée des sciences sociales et à réintroduire dans l'idéologie des identités et des autochtones. Ces rhétoriques et récits font partie de ce à propos de quoi les sciences sociales et l'anthropologie, plus précisément, doivent s'interroger, car ces récits et rhétoriques du lieu et de l'autochtonie ne sont pas transparents aux pratiques. Tout le monde est mobile et tout le monde parle de racines, tout le monde parle d'autochtonie, tout le monde parle de lieu. Les uns et les autres se situent dans un contexte plus large et délocalisé qui a d'ores et déjà inclus la mobilité dans son fonctionnement. Ainsi, plutôt que d'évoquer toujours la perte de racines et la nécessité de l'enracinement comme bon contexte social, comme contexte social normal et référentiel de l'action localisée des individus, il s'agirait de penser la dynamique des mobilités et des ancrages, et donc plutôt substituer l'idée d'ancrage à celle de racine ou d'enracinement, sans préjuger de la durée de ces ancrages. Il s'agirait d'élaborer des topographies de l'exil ou de la mobilité, plutôt que des monographies de lieux, éventuellement monographies de lieux perdus, et donc appréhender des réseaux de lieux sans préjuger de leur temporalité et de leur reproductibilité, de leur durée. On observe ainsi qu'il existe à l'échelle mondiale, à partir de ce cadrage-là, où on se situe non plus dans la question de la racine, du racinement, mais dans la mobilité, c'est à ce moment-là qu'on peut s'apercevoir que ce qui existe au niveau global, c'est d'abord, avant tout, une grande inégalité dans la mobilité, une inégalité dans l'accès à la mobilité et aux lieux d'ancrage, qui rendent cette mobilité possible. Et comme l'ont déjà mis en évidence Zygmunt Bauman ou Jean-François Bayard, c'est un des éléments d'une inégalité sociale à l'échelle mondiale, cette profonde différence selon les lieux de naissance, selon les origines historiques, selon la couleur de la peau, etc., de l'accès à la mobilité. Des espaces d'entre-deux se développent dans ce cadre. Reliés aux circulations les plus précaires, ils représentent sans doute de nouveaux espaces de mobilité à partir desquels on pourra penser des lieux au sens anthropologique à venir. Même conçus comme des lieux de transit, ces espaces, donc sur tous ces espaces auxquels je m'intéresse depuis un certain nombre d'années, tendent à se stabiliser, ont toujours une tendance à se stabiliser. Et on peut penser qu'une partie d'entre eux transformera demain certains des cadres, autant politiques que théoriques, de l'identification locale. Alors, on peut faire un inventaire, si vous voulez, un inventaire jamais terminé, de ces espaces aujourd'hui considérés comme étant accidentels, de transit, provisoires, etc., mais qui de fait s'inscrivent dans la topographie urbaine, dans la topographie générale et dans la topographie sociale. Alors, on peut évoquer les campements et les cités de travailleurs intérimaires, les zones de transit, zones pour le regroupement d'étrangers en situation irrégulière, demandeurs d'asile, les friches industrielles qui sont éventuellement squattées, les immeubles en ruine, abandonnés, qui sont également occupés, je pense, à d'autres lieux qu'à la France en l'occurrence, mais ça concerne aussi des lieux en France. Les logements vacants, les terrains de camping-caravaning habités par des voyageurs stabilisés mais qui n'ont pas d'adresse fixe, les camps déplacés, les camps de réfugiés, etc. Donc tout un campement, tout un ensemble aussi de campements auto-établis et qui peuvent être appelés jungle, comme on en entend parler maintenant à peu près quotidiennement à propos de Calais, qui est peut-être le camp actuel n'étant plus exactement une jungle, on y reviendra, ghetto et autres, tout cela étant généralement considéré comme les lieux ou les espaces les plus clandestins et sans cesse menacés de disparition. Donc c'est un inventaire qu'on peut continuer et qui me semble intéressant de faire parce qu'il y a un petit peu chaque jour à mettre à jour. Mais si on veut en dire quelque chose déjà tout de suite, on pourrait dire, pour reprendre certains termes, certains concepts qui avaient été utilisés, je pense à François Chauvet et à d'autres, on pourrait dire que ces espaces de vie, où on fait l'hypothèse que beaucoup de choses de demain sont en train de se préparer, ces espaces de vie se forment dans la non-ville d'aujourd'hui. Je parle de non-ville au double sens du terme, et en prenant cette définition négative, non-ville, d'un point de vue critique. D'une part, ces espaces se situent physiquement en dehors des structures de la ville officielle, dans ses limites montrées, aménagées, que ce soit dans les espaces abandonnés des centres historiques ou loin des enceintes urbaines, donc dans les périphéries de plusieurs cercles périphériques, et parfois très loin de tout établissement humain. C'est le cas en particulier de certains camps de réfugiés, par exemple, en Afrique ou en Asie. D'autre part, ces lieux se forment à partir des politiques d'exclusion, d'abandon ou de mise à l'écart. Je pense que les trois termes sont importants. Mise à l'écart, ce que j'ai appelé l'encampement, hein, de mettre des gens dans des lieux à l'écart. L'abandonner, pour reprendre un terme d'Agamben, abandon, ça veut dire abandonner, donner au vent, donner à la nuit, et d'exclusion, parce qu'il s'agit de gérer des populations socialement indésirables, même si elles ne sont pas économiquement complètement inutiles. Et donc dans tous les cas, donc, des lieux qui, sur le plan des topographies, émergent en creux comme des espaces vides ou des terrains vagues. Ils se construisent ainsi sur une base inverse de celle de la ville, conçue comme espace d'échange, d'interaction sociale ou économique. Et ces lieux rejoignent la cohorte des lieux déjà existants, anciennes et stabilisées, des marges urbaines. Et donc, au bout du compte, vous voyez, on se retrouve sur une problématique élargie de la question des marges urbaines. Les périphéries de favelas, d'invasiones en Amérique latine, les quartiers dits spontanés ou les quartiers déguerpis en Afrique, etc. Espaces de l'entre-deux ou marges urbaines, ils sont de plus en plus abandonnés à un traitement non pas social ou politique relevant de la citoyenneté définie par le lien de l'individu à l'État-nation, mais selon un régime de pensée et d'action tout autre, prophylactique, tenir à l'écart, se protéger de ces populations, et biopolitique, au sens où on traite des populations, des catégories de populations globales, et non pas de citoyens. Sécuritaire et éventuellement humanitaire, on maintient des gens en vie à minima dans une marge, tenue sous contrôle. La mise à l'écart favorise aussi la prise en charge communautaire, entre guillemets, des questions sociales et politiques, et la création d'une altérité radicale, à la fois biopolitique et urbaine. Donc un régime de pensée autre, pour fonder des espaces autres, hétérotopiques, pour reprendre le terme de Michel Foucault. C'est là qu'on voit se former des frontières urbaines dans un sens auquel je me suis particulièrement intéressé, c'est-à-dire la frontière non pas comme ligne que l'on passe, serait une abstraction, mais comme véritable espace, un véritable espace qui a de l'épaisseur, qui a de la durée, et qui représente des lieux qu'on peut visiter. Pour arriver à cette idée de frontière en tant que lieu, en tant qu'espace élargi, en tant que lieu d'épaisseur sociale, je suis parti, si vous voulez, tout simplement de l'idée à un moment de hors-lieu. Vous savez, on n'est ni dans un lieu, ni dans un non-lieu, on est dans des espaces qui sont hors de tous les lieux. Or, ces espaces hors de tous les lieux, c'est exactement le terme par lequel Michel Foucault définit ce qu'il a appelé l'hétérotopie, les espaces autres. Ces espaces autres qui sont en relation avec l'espace propre, avec l'espace qu'on dirait central dans un autre cadre théorique. Et donc ce rapport du centre à la marge, ou du centre à la frontière, définit aussi cette épaisseur de la frontière. Alors, tout ça fait exister des frontières urbaines. Et il me semble que explorer ces lieux, ces véritables lieux de frontières urbaines, nous permet d'avoir un regard sur la production de la ville en général. Alors, j'ai travaillé sur plusieurs zones qui relèvent de cette représentation de la limite de la frontière urbaine. Je vais les évoquer assez rapidement, on pourra y revenir après. Le premier, il se trouve que c'était mon tout premier terrain, c'est le quartier Zongo de Lomé, qui est un quartier en fait, un quartier d'étrangers qui est dans la périphérie de la capitale du Togo. Mais il se trouve que des quartiers Zongo, il y en a sur les routes anciennes des migrants et des commerçants, des anciens commerçants de longue distance à Oussa, et donc depuis le nord du Nigeria et le sud du Niger jusqu'au Ghana, on a comme ça, le long des routes migratoires, des quartiers d'étrangers qui ont d'abord été des quartiers avec cette définition tirée de la langue à Oussa, Zongo, qui littéralement veut dire le campement d'étrangers, les payotes, en dehors de la ville. Et puis ce lieu de commerçants et immigrants ou ça est devenu plus généralement un lieu pour les étrangers, ce qu'on appelle dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest les allochtones, hein, ceux qui viennent d'ailleurs, qui sont nés ailleurs, et c'est devenu un lieu qu'on peut étudier du point de vue, comme l'avait fait un anthropologue anglais, Abner Cohen. On peut les étudier du point de vue de la formation diasporique, c'est-à-dire effectivement on a dans l'histoire du commerce à Oussa depuis principalement le milieu du 19e siècle, on a des quartiers comme ça qui parcourent le réseau des commerçants à Oussa. Mais on peut à chaque fois l'étudier aussi du point de vue local. Et donc c'est de ce point de vue-là que j'ai choisi dans mes enquêtes de l'étudier, c'est-à-dire que le quartier Zongo de Lomé est un quartier qui a été déguerpi, pour prendre un terme fréquent en Afrique, un quartier qui a fait l'objet de 5 déguerpissements depuis sa création à la fin du 19e siècle, et qui s'est toujours renouvelé, et qui a finalement... donner lieu à, dans son dernier déplacement, qui est celui auquel j'avais pu, à partir duquel j'avais pu mener mes enquêtes, et que Amandine Spire, une géographe de cette thèse alimentaire, je crois qu'elle est que Amandine Speer a publié chez Cartala récemment un ouvrage sur l'étranger dans la ville. Et donc, elle a une partie de son enquête porte sur ce quartier Zongo de Lomé. Et il se trouve que ce lieu de déguerpissement que certains disaient à ce moment-là étant la fin du quartier, l'exclusion définitive, la mort des quartiers des étrangers, eh bien, ce quartier-là s'est redéveloppé comme étant un pôle, précisément, un pôle d'intermédiaire entre toutes les populations qui circulent depuis les régions sahéliennes jusque vers la côte ouest africaine, qui arrivent vers Lomé et qui ont dans ce quartier, qui ont trouvé dans ce quartier un sas d'entrée dans la ville. Et donc là, on est un peu dans la figuration, si vous voulez, du quartier d'étrangers, du ghetto au centre de Newhurst. Hein, c'est le quartier qui est devenu un des plus importants quartiers aujourd'hui de Lomé, mais qui a été, lorsqu'il a été déguerpi, pour la cinquième fois, ce déguerpissement le mettait à nouveau exactement sur la limite du périmètre urbain. On aurait même eu l'impression que le lieu avait été choisi par les urbanistes eux-mêmes, comme à l'époque des frontières coloniales, on va dire la limite passe ici, donc on va mettre le quartier Zongo ici, juste un tout petit peu à l'extérieur de la limite du périmètre urbain. Donc c'est un lieu où on peut retrouver à la fois cette figure simélienne de l'étranger qui peut toujours partir mais qui est resté, mais qui pourra encore repartir, et donc il y a une position ambiguë, hein, une position ambivalente, il est bien là, il peut repartir, on n'est jamais sûr qu'il soit tout à fait fidèle aux loyautés urbaines, aux structures, aux formes, aux normes de la ville. Il est toujours un peu en marge, donc il est dans un rapport politique tendu avec la centralité gouvernementale ou urbaine. Et c'est un lieu aussi où les gens qui sont là sont un peu les autochtones des autres étrangers qui arrivent, tout en étant eux-mêmes étrangers. Donc on a un rapport finalement inversé d'autochtonie et d'allochtonie, pour reprendre les termes entre guillemets qu'on utilise dans la région, où finalement des étrangers se font accueilleurs d'étrangers. Logeurs, accueilleurs d'étrangers dans le contexte urbain, avec donc des formes d'établissement toujours provisoires mais bien installées à la limite de la ville. Le deuxième cas de frontières urbaines est celui d'un campement de migrants afghans dans la ville de Patras en Grèce. C'est un travail que j'ai fait avec Sarah Presciani, qui a enquêté avec moi, mais a aussi fait des photos. Et on a publié un petit livre, qui est un livre qui s'appelle « Je me suis réfugié là, bord de route en exil », qui est à la fois un journal de terrain, de ses visites dans différents campements, des réflexions plus théoriques et un ensemble de photos sur ces campements, entre la Grèce... La Grèce, l'Italie, Paris, Gare de l'Est et autour, et Calais, tout ça en 2009. Alors, ce qui est intéressant, pour aller vite là aussi, dans ce cas-là, bon, c'est un campement, donc on est dans une situation la plus provisoire qui soit. Les gens qui arrivent là sont bloqués à la frontière, au sens littéral, et donc, comme on le voit maintenant assez... régulièrement et en boucle à la télévision à propos de Calais, des gens attendent tous les jours l'heure à laquelle ils vont pouvoir courir derrière les camions pour, en s'organisant, réussir à monter à l'arrière des camions qui, eux, vont aller dans les bateaux, qui vont aller ensuite en Italie, et compter comme ça, pouvoir continuer leur route vers l'Europe. La difficulté des passages, l'effet de boulet d'étranglement fait que le campement se produit à ce moment-là comme un peu dans toutes les frontières, hein, comme c'est le cas à Ceuta ou Melilla, comme c'est le cas à Tijuana dans la frontière Mexique-États-Unis, comme c'est le cas à Calais, comme c'est le cas dans plusieurs frontières du côté des Balkans. Des campements se forment juste au lieu de la frontière par l'effet même de ce blocage de la frontière, et le campement devient progressivement un lieu de vie. Alors un lieu de vie complètement improbable, un lieu de vie destructible très rapidement, c'est ce qui s'est passé avec le, le campement de Patras, puisqu'il a duré 12 ans, ce qui est quand même important, de fin 96 à mi-2009, mais des lieux, donc, dans toute leur précarité, sont quand même des lieux qui ont une existence incroyable à une autre échelle, qui serait une échelle d'un cosmopolitisme urbain qui n'est peut-être pas celui qu'on imagine, c'est-à-dire de réseaux de lieux pour les migrants. Le lieu de Patras est très bien connu par les migrants qui passent la frontière entre l'Iran, le Pakistan, l'Irak, la Turquie, c'est-à-dire dès les premiers lieux de la route de la migration, on connaît le campement de Patras, depuis le point de Zaïdan, voilà, où se tient un autre campement, entre l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan. On connaît le campement de Calais, on connaît le campement de Nord-Enfant, et donc tous ces lieux-là sont des noms que les gens donnent à des réseaux de lieux qui peuvent être à un moment donné un peu imaginaires, mais qui servent de repère dans une espèce d'espace inconnu, un espace mystérieux d'une migration qui est beaucoup moins ciblée que ce qu'on dit quand on en parle en général. Il y a un facteur d'errance assez important, mais dans cette errance générale, un certain nombre de lieux, donc, et en particulier les noms de lieux sont en réalité les noms des campements, servent de repères assez partout. Ce sont aussi des lieux qui font partie de l'histoire des villes où ils se trouvent, histoire de conflit, mais histoire aussi de solidarité. Que les soutiens soient humanitaires, juridiques ou politiques. Ça a été le cas de ce campement de Patras, donc, qui est situé géographiquement exactement à quelques mètres de la frontière proprement dite, puisqu'on est à quelques mètres du port, hein, de la ville. Mais si ce campement a existé pendant 12 ans, comme je disais, c'est parce qu'il y a un compromis, finalement. Il est le résultat d'un compromis entre la présence récalcitrante contre toute répression des migrants qui sont là, qui continuent à venir, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les morts en mer, quelles que soient les répressions qu'ils subissent de la part des polices. Ils continuent d'être là, manifestant leur existence. Des associations qui existent dans le tissu local, qui peuvent être des associations de voisins, qui serait l'autre terme inverse du riverain, des associations de voisins qui, pour des raisons humanistes, humanitaires, politiques ou autres, s'organisent pour soutenir la cause des personnes qui sont là en mobilité, et puis les autorités, la ville ou la préfecture. Et en l'occurrence, c'est dans ce rapport à trois, si vous voulez, dans cette négociation à trois que le campement de Patras a pu exister pendant 12 ans. Au final, on a quand même eu, comme on a eu en France en 2009 aussi, des bulldozers qui sont arrivés et qui ont rasé le campement, ce qui fait que les gens sont allés ailleurs, s'installer dans d'autres campements, etc. Mais on a un petit peu la répétition de l'existence de ces lieux-là qui oblige à penser que, au-delà de leur précarité, de leur instabilité, c'est une frontière urbaine qui continue d'exister et un espace donc de référence. Alors le troisième exemple de frontière urbaine, c'est une longue histoire, donc je vais l'évoquer très brièvement seulement, c'est l'histoire d'un squat, d'un très grand squat d'environ 500 habitants, 127 logements, qui est dans un ancien hôpital à Beyrouth, dans le quartier de Sabra. Sabra est un quartier, ça n'est pas un camp, un quartier, l'ancien groupement palestinien de Sabra, qui se trouve à côté du camp de Shatila. Et ce squat-là a été ouvert par des femmes palestiniennes qui ont quitté le camp de Shatila au moment de violences internes au camp en 86-87, Et donc l'ouverture de ce squat par trois femmes, avec l'autorisation de l'armée syrienne, qui à ce moment-là occupait la ville et le quartier de Sabra, a donné lieu très rapidement à la formation d'un espace aussi, où se sont trouvés d'une part des Palestiniens de différentes catégories, de différents statuts, si vous voulez, en gros des Palestiniens qui n'avaient pas droit à une habitation dans les camps de réfugiés palestiniens, donc si vous voulez des Palestiniens sans camp, des Palestiniens sans statut et sans camp, puis des migrants venant d'autres lieux, notamment des Irakiens, des Égyptiens, des Soudanais, tout ça étant des migrants quoi, venant pour des séjours longs ou courts liés à des migrations de travail, plus récemment des migrantes, des femmes migrantes du Bangladesh qui sont arrivées par des réseaux de travail lié à un contrat de travail où le passeport et la possibilité, non pas du visa, mais la possibilité d'entrer est liée à un contrat de travail de type esclavagiste, ou en tout cas que beaucoup d'associations créent étant de type esclavagiste. Et donc ces femmes fuient leur patron et elles abandonnent beaucoup leur passeport et elles se trouvent dans l'illégalité. Tout en travaillant comme employé domestique dans d'autres contextes et donc en logeant dans des habitats, nécessairement dans des habitats clandestins. Et dans ce cas-là, le squat est effectivement le lieu qui convient, si l'on peut dire, à cette catégorie de population. Et puis ce squat est aussi occupé par de très nombreux Syriens, avec plusieurs générations de Syriens, qui sont d'une part des familles syriennes, des familles qui peuvent être liés avec d'autres membres de la famille qui sont au Liban. Vous savez que le Liban et la Syrie sont proches et entretiennent des relations depuis très longtemps. Des travailleurs syriens qui depuis longtemps migrent au Liban pour travailler notamment dans le bâtiment pour des périodes courtes avec des allers-retours. Et puis depuis trois ans, évidemment de très nombreux réfugiés syriens. Et donc on trouve tout ce monde-là dans le petit monde cosmopolite du squat qui s'appelle Gaza, Gaza Hospital, l'hôpital Gaza, qui relève donc d'une définition qui correspond à peu près à ce qu'est aujourd'hui le quartier de Sabra en général, dans la ville de Beyrouth et qu'on appelle généralement une zone de misère cosmopolite où effectivement de très nombreux étrangers de toute nationalité, de toute activité se retrouvent là. Même stabilisé donc dans le squat, et pour certains les plus âgés sont là depuis 20 ou 27 ou 30 ans, celles et ceux qui y vivent s'imaginent en transit. Les réfugiés palestiniens et syriens attendent ou feignent d'attendre un retour sur les terres qu'ils ont dû fuir, et les migrants voient leur passage dans ce squat comme une étape dans un cycle plus long de mobilité, pour certains cherchant à atteindre certaines centralités de la ville, une certaine insertion dans la ville, dans son enceinte, si on peut dire, et pour d'autres, continuant leur circulation, leurs allers-retours, etc. Alors, juste quelques mots pour terminer. Voilà, donc, je reviens sur l'idée de frontières et de situation de frontières, que ces trois exemples me permettent de caractériser un peu. On peut dire qu'à chaque fois, ils incarnent un dehors, entre guillemets, ou ce que les gens de la ville peuvent considérer comme un dehors, plus ou moins lointain, plus ou moins proche. Un dehors lointain parce que c'est le lieu où des migrants sont là, donc ils viennent de loin, ou ils viennent d'ailleurs, d'autres pays. Et un dehors proche parce qu'ils sont dans une certaine extraterritorialité par rapport à la ville. Alors extraterritorialité non seulement parce qu'ils sont sur le bord de la ville, physiquement, géographiquement, mais aussi parce qu'ils peuvent relever d'une, d'un rapport à l'espace différent de celui des autres citadins. Donc on a des gens qui relèvent pour une très grande part d'une, d'une extranéité, d'une étrangeté par rapport à l'État-nation, hein, mais puisqu'il y a beaucoup de migrants qui viennent d'autres pays, mais c'est tout autant un dehors de l'ordre urbain. Et que ce soit le campement de Patras avec ses migrants dits clandestins, que ce soit le squat de Gaza Hospital avec cette population dite cosmopolite et de statut très différent des autres habitants de la ville, ou que ce soit le quartier des étrangers à Lomé, où la population qui est là est soit effectivement étrangère à la nationalité togolaise, ou est considérée et se considère étrangère, même si les gens sont de fait nés au Togo, puisqu'ils sont des descendants de migrants et ont acquis la nationalité togolaise, il n'empêche que tout le monde là les considère ou qu'ils se considèrent comme, comme étrangers. Donc ce qui fait la... c'est tout cela qui fait de la frontière le lieu de quelque chose en plus par rapport à l'ordre urbain, de quelque chose qui est à la limite et qui est le lieu d'un sujet, d'un sujet politique et d'un sujet urbain. J'entends sujet au sens où le sujet est ce qui vient déranger un ordre en place. Ce qui vient déranger l'ordre identitaire et l'ordre spatial qui est en place, il incarne, ou mieux, il subjective un désaccord à propos du partage du lieu établi, en particulier donc du partage de la ville. Logiquement, la place de ce sujet est à la limite extérieure du périmètre administratif urbanistique de la ville, comme le sont les campements Haoussa en Afrique de l'Ouest, le Zongo. Campement, donc littéralement, le campement Zongo se définit toujours, dès son premier sens historique, par distinction du Birni. Le Birni, c'est la ville dans son enceinte. De même, je me suis réfugié là est la phrase politique du migrant afghan établi dans un campement à Patras ou à Calais, à la limite de la ville frontière et à l'entrée de son port. Une projection inquiétante de l'avenir de ces espaces y verra la progressive fixation d'une extraterritorialité à la fois urbaine et politique, une marginalité urbaine qui repose essentiellement sur un rejet à la marge de l'État et en deçà de l'exercice commun de la citoyenneté. Dans ces conditions, que leur avenir soit placé au degré ou de force sous le signe d'un gouvernement humanitaire, d'un gouvernement sécuritaire ou d'un gouvernement communautaire, l'horizon qui se dessine dans tous les cas est la forme spatiale de la mise à l'écart et la forme sociale et politique d'un gouvernement sans citoyens. Face à un tel enjeu, la question de savoir si les espaces de la mobilité précaire et de la marge peuvent fonder des ancrages urbains durables et au-delà fonder des villes est bien plus qu'une question théorique, c'est l'objet d'un conflit sur la forme et les acteurs de la mondialisation d'une part et sur l'avenir des villes d'autre part. Voilà, je vais arrêter là mon exposé et laisser à mes collègues le temps pour leurs commentaires. Je vous remercie.